Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite petite consultation entre amis.
C'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait.
Petite consultation entre amis. L'émission de santé totalement décomplexée, le samedi à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons cette semaine l'actualité en commençant par les infos qu'il faut, docteur Marion. L'expression rigolote sera dorer la pilule, docteur Adrien. Le comédon. Alors, comédon, c'est le mot du médecin du soir. Et puis, la question existentielle, faut-il fumer de la tisane à la camomille? Alors, vous êtes allé sur les forums, docteur Adrien, et vous répondrez à notre ami Géronimo. Et on conclura évidemment par les temps attendus, bref, de salle d'attente. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec une, toujours cette même belle brochette, docteur Marion. Vous allez mieux ?
Mieux, pas tant.
Pas tant que ça. J'espère juste que votre état ne va pas se dégrader pour la semaine prochaine et que je serai présente.
J'en ai bien peur.
Nous aussi, on en a bien peur. Docteur Adrien, vous êtes toujours là, notre spécialiste de tout, de rien.
Ah bah moi, je suis là, hein, le spécialiste en tout cas.
Le spécialiste en tout cas. Il manque le docteur Julie, notre voix chaude et suave, qu'on salue, qui peut-être nous écoute, qui nous rejoindra
on lui
peut-être.
Fait un bisou.
Voilà, la semaine prochaine, on ne sait pas.
Une petite bise.
Allez, une petite bise et passer cette petite bise, et ben on se fait un petit tour de l'actu santé.
C'est la principale info de la semaine et c'est le grand retour de la grippe, Loïc.
Effectivement, docteur Marion, c'est un peu comme les vendanges, Halloween ou l'ouverture de la chasse au gibier. La grippe, c'est l'un des grands rituels du début de l'automne. La grippe revient, mais pas seule. Elle revient également avec son lot de questions sans réponse. Impossible par exemple de déterminer avec précision quelle sera la virulence de la souche actuelle, ni quel sera le taux d'efficacité du vaccin mis sur le marché.
Mais les spécialistes sont bien plus optimistes que l'année dernière, rassurez-nous.
Eh oui, vous avez raison, les spécialistes sont beaucoup plus optimistes qu'en 2014 et ils peuvent l'être. Il y a un an, le vaccin en service avait présenté un taux d'efficacité de 23%. Faible, mais logique vu les conditions particulières dans lesquelles la grippe avait frappé. On avait eu un problème d'efficacité du vaccin car le virus de la grippe a muté, justifie Sylvie Beynil, responsable adjointe du Centre National de Référence de la Grippe à l'Institut Pasteur, et c'est pas faux de le dire. Bon, en théorie, le vaccin protège contre 3 virus de la grippe à la fois, la souche A H1N1, la souche A H3N2 et la souche B. Lors de la dernière épidémie, le virus A H3N2 était en surnombre par rapport aux autres, et manque de chance, c'est cette souche qui a muté et a rendu le vaccin inefficace. Même si on ne sait pas quel vaccin va réellement circuler, il y a peu de chances que le scénario de 2014 se reproduise. En fait, pour déterminer la souche, ça se décide à l'échelle internationale. En gros, les spécialistes du monde entier se réunissent en tout début d'année pour établir la composition vaccinale du produit de l'année suivante. Il s'agit alors d'affiner les prévisions. Cette année, celle-ci a été modifiée au niveau de la grippe H3N2, détaille Sylvie Beynil. L'épidémie a déjà eu lieu dans l'hémisphère sud cet été et normalement cela donne une idée de ce qui va se passer dans le nord en hiver. On pense donc que le vaccin sera efficace contre la grippe A H3N2. H3N2 étant également connu pour être plus virulent que ses cousins, notamment chez les sujets âgés.
Et le vaccin millésime 2009 laisse quand même un souvenir amer.
Et c'est le moins qu'on puisse dire, 94 millions de doses vaccinales avaient à l'époque été réquisitionnées. Du beau boulot, Roselyne, j'ai envie de dire. A priori, cette année, l'Europe devrait être mieux protégée et on ne devrait plus connaître un tel scénario qu'on avait connu en 2009. En effet, depuis, le vaccin a fait son effet. Nos organismes ont également développé des anticorps pour contrer ce virus. Et 2015 ne sera donc pas l'année d'un nouvel affolement de dernière minute. Enfin, en théorie, précise quand même la spécialiste, car en virologie, on n'est jamais trop prudent.
Et enfin, une dernière info, Loïc. Rouler casqué.
Et effectivement, selon une étude récente, le port du casque réduit de 58% les risques de traumatisme crânien et le risque de souffrir de blessures au visage est également diminué de 26%. Évidemment, le casque n'empêche pas aux cyclistes d'avoir des accidents, ça c'est un peu évident, mais lorsque ces derniers se produisent, ils en limitent souvent la gravité. Le casque à vélo peut faire la différence et c'est déjà ce qu'expliquait une campagne de sensibilisation il y a 10 ans. Mais on sait désormais jusqu'à quel point les porteurs de casque ont 58% de risque en moins de souffrir d'un traumatisme crânien grave que les cyclistes qui n'en portaient pas. Quant au risque de décès suite à un accident de vélo, il est lui 59% plus bas chez ceux qui ont adopté le casque. Même chose pour le risque de blessure au visage, 26% moins élevé. Et c'est justement ce que montre une étude menée par les chercheurs de l'université du Tucson en Arizona aux États-Unis sur plus de 6200 patients hospitalisés pour un traumatisme crânien suite à un accident de vélo, dont un quart seulement portait un casque. Si vous êtes sévèrement blessé, mais que vous portiez un casque lors de l'accident, alors vous allez mieux vous en tirer, explique le docteur Belal Joseph, l'un des auteurs de l'étude. Bref, tant pis pour votre broching, votre style sur votre fixie, casquez-vous, même en vélib, et retenez bien, un bon cycliste est un cycliste vivant.
Quoi de neuf, docteur ?
Quoi de neuf, docteur Marion, justement ? Quoi de neuf, docteur, avec les infos de la semaine ? Et vous nous parlez de journée mondiale à n'en plus finir, de conférences, et vous êtes allé chercher tout ça et vous allez tout nous expliquer.
Tout à fait, donc cette semaine, et on va commencer par demain, le 18 octobre, journée mondiale de la ménopause. Alors j'imagine que nos éditeurs ne sont pas tous concernés par cette problématique, mais il faut quand même...
Vous n'êtes pas concerné non plus, docteur Marion. Enfin,
non,
on peut,
pour l'instant, c'est une maladie que je n'ai pas. Voilà.
Alors, ce n'est pas une maladie, hein, je rappelle, c'est un cycle physiologique.
Tout à fait.
Allez, la journée mondiale de la ménopause, non, le 18 octobre.
Tout à fait. Donc, l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans ou plus. Et malheureusement, une durée de vie plus longue entraîne aussi une augmentation spectaculaire de l'incidence des maladies et des affections qui peuvent être associées à la perte d'œstrogène au milieu de la vie. La journée mondiale de la ménopause appelle donc toutes les nations à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique. Cela, bien sûr, afin d'aider les femmes à éviter les symptômes désagréables susceptibles d'affecter la productivité et la qualité de vie et afin de réduire les taux d'ostéoporose, de maladies cardiaques, de cancer du côlon et autres maladies du vieillissement liées aux œstrogènes.
Deuxième journée mondiale, c'est la journée mondiale du bégaiement et c'est le 22 octobre. Non, pas de blague là-dessus. Alors, la journée mondiale du bégaiement.
Je vais essayer de bien le faire. La journée mondiale du bégaiement est l'occasion d'une prise de conscience par les non-bégayants des difficultés relationnelles qu'entraîne cette infirmité. 1% de la population mondiale bégayerait, selon les estimations, soit environ 60 millions de personnes, soit la population entière de la France. On en reste muet. Même si les spécialistes n'ont pas encore déterminé de façon certaine les causes de ce trouble du langage, il est possible de le contrôler ou de le guérir par des traitements orthophoniques, psychologiques et autres. Moquerie des camarades de classe, pression des parents ne comprenant pas, le bégaiement est sans doute encore plus terrible chez les enfants que chez les adultes. Profitez de cette journée pour vous renseigner sur ce trouble. Plus le dépistage est effectué tôt, cela est possible dès 2 à 3 ans, moins le traitement sera long.
Et enfin, une conférence santé et réchauffement climatique, et c'est également le 22 octobre.
Tout à fait. Pour ceux qui pourraient se rendre jusqu'à Bordeaux, bien sûr, parce qu'elle se passe à Bordeaux dans le cadre du cycle Science et Développement Durable de la Maison Éco-Citoyenne de Bordeaux. C'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale qui propose cette conférence, donc appelée Santé et Réchauffement Climatique. L'événement sera ensuite suivi d'un débat. Et cela fait lien avec la conférence internationale sur le climat, la COP21, qui aura lieu à Paris et qui est organisée par les Nations Unies en décembre. Les décideurs politiques du monde entier s'y réuniront pour combattre le réchauffement climatique. Et à l'approche du coup de la COP21, l'INSERM souhaite sensibiliser aux risques sanitaires que fait encourir l'évolution du climat. Donc bien sûr, c'est ouvert à tous les publics. C'est dans la Maison Éco-Citoyenne de Bordeaux. Les horaires, c'est de 18h15. À 20h et vous avez toutes les informations sur le site www.inserm.fr.
Pratique en tout cas cette conférence à Bordeaux, en tout cas pour les Parisiens. Merci docteur Marion. Allez, on écoute notre première page de musique. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et on écoute Chapelier Fou, Superstition. Thank you. Radio Campus Paris, petite consultation entre amis, c'était Chapelier Fou, Superstition, et on retrouve tout de suite eh bien, l'expression rigolote se dorer la pilule.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors docteur Adrien, vous avez fait des recherches fantastiques, et vous allez nous expliquer d'où vient cette expression se dorer la pilule.
Exactement, docteur Loïc. Et pour comprendre cette expression, se dorer la pilule, il faut d'abord s'intéresser à une autre expression arrivée la première, qui est dorer la pilule, et non pas se dorer la pilule, mais
exactement,
dorer
j'ai fait la petite
pilule.
Erreur. Je vois à votre regard accusateur
pas du
que
tout,
j'ai fait la petite
tout.
Erreur tout à l'heure.
Mais vous ne l'avez pas fait, docteur Loïc, absolument pas. Mais c'est pour que les auditeurs comprennent bien que je me permets de le repréciser.
J'aime quand vous reprécisez les choses comme ça.
Donc, je pense que c'est
dorer
important.
La pilule qui n'a rien à voir avec se dorer la pilule.
Ben si, ça a à voir, mais c'est quand même deux choses différentes. Donc l'expression du jour, c'est se dorer la pilule, et l'expression que je vous explique maintenant, c'est dorer la pilule. Depuis plusieurs siècles, la médecine a recours aux pilules pour soigner les malades, ça on le sait. Sauf qu'avant, ces petites gélules qui étaient fabriquées par les apothicaires présentaient deux gros problèmes. Premièrement, elles collaient entre elles. Et ensuite, elles étaient absolument infâmes au goût. Donc afin de faciliter leur absorption, merci, et de limiter leur goût souvent horrible, les apothicaires ont eu l'idée de les enrober. Donc dès le XVIIe siècle, en fait, on avait différentes méthodes qui étaient employées pour cet enrobage. Et l'une d'elles consistait à utiliser une fine couche de sucre, quand l'autre... consistait à utiliser une mince pellicule d'or. Donc on comprend mieux dorer la pilule. Il faut savoir que l'or n'a pas de goût. C'est le seul métal qui est assimilable, tel quel par le corps. Et c'est pour ça que vous avez peut-être déjà remarqué dans certains troquets, dans certains bars, le bord de certains verres est doré.
On va jamais dans des bars, nous dit docteur Marion.
Oui, je vous permets pas.
Non, mais surtout pas dans son état actuel.
Alors du coup,
c'est à cette époque que dorer la pilule est apparue dans le langage courant pour désigner le fait d'enjoliver les choses et de leur donner une apparence trompeuse pour mieux faire avaler la pilule au propre comme au figuré. Donc quand on dit dorer la pilule, ça veut dire enjoliver les choses pour les rendre plus attrayantes.
Ah du coup, oui, il y a deux expressions en fait. Il y a dorer la pilule qui ne signifie pas du tout se dorer la pilule.
Voilà, ça ne veut pas du tout dire la même chose, quoique j'y viens. Où en étais-je ?
On en était à, justement, dorer la pilule signifiait enrober un peu les choses de façon un peu merveilleuse et mettre de l'or sur les pilules.
Voilà, et d'ailleurs, l'ancienne signification du verbe dorer, ça voulait dire oindre, donc recouvrir, enduire, donc pas du tout dorer comme on pourrait l'entendre a priori. Donc, sous sa forme pronominale, hein, l'expression du jour « se dorer la pilule » ou « se faire dorer la pilule » est apparue au début du XXe siècle, et ça voulait dire « se faire des illusions ». Voilà, à ce moment-là, ça voulait dire « se faire des illusions », »,« se faire dorer la pilule ». Sauf que depuis les années 80, elle a pris un autre sens, celui de se prélasser, de bronzer, avec donc un lien avec la farniente. Voilà. Pour certaines personnes, il y a un lien entre les deux expressions qui n'est pas avéré. Se dorer la pilule dériverait simplement de se dorer au soleil, la pilule symbolisant notre visage. Mais enfin bon, ça c'est très hypothétique. Alors, que l'on se dore au soleil ou que l'on dore la pilule à quelqu'un, les deux permettent d'embellir les choses en tout cas. Maintenant, les derniers rayons du soleil d'été ayant fini de poindre et non d'oindre à l'horizon, nous espérons que vous en avez bien profité parce que maintenant, il est temps soit de s'exiler au soleil, soit de redevenir blanc comme un cachet d'aspirine.
Qui est pas mal cette expression, merci docteur Adrien.
Qui fera peut-être l'objet d'une chronique.
Peut-être, peut-être. Et justement, en parlant de chronique, je parle pas de vous et de vos maladies chroniques, docteur Marion, on s'entend. Mais on va parler du mot du médecin. Et alors vous avez bobo docteur Marion, mais surtout vous avez bobo à votre peau, car aujourd'hui vous nous parlez du comédon.
Tout à fait.
Exactement. Alors allons-y, le comédon, qu'est-ce que c'est le comédon ?
Alors le comédon n'est bien évidemment pas un dinosaure datant de milliers d'années. C'est en effet une belle pustule d'acné, hein, pour être très clair.
Alors plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les comédons ?
Alors les comédons sont des lésions des glandes sébacées situées sous l'épiderme. Ça se caractérise par une accumulation excessive de sébum dans les pores de la peau, ce qui obstrue le canal d'un follicule phyllosébacé. Le plus souvent, les comédons apparaissent sur le visage et plus particulièrement sur le nez, mais on peut en retrouver sur la poitrine et le dos. La chaleur et l'humidité favorisent leur apparition. Elle peut également survenir dans certaines maladies neurologiques, type Parkinson, ou quand il existe un excès d'hormones œstrogènes globalement dans le corps. Certains individus ont des canaux phyllosébacés étroits, ce qui empêche le drainage normal des sécrétions sébacées. C'est ce qu'on appelle plus familièrement l'acné, avec les points noirs et les points blancs.
Alors, quand on revient sur le mot comédon, alors d'où ça vient, ce mot comédon ? Vous avez fait des recherches en latin, j'imagine.
Tout à fait. Ça vient effectivement de l'ancien. Le mot comédon est une adaptation du mot latin comedere, comedo, comedonis, ceux qui ont fait latin au lycée pourront vous dire que cela veut dire manger, mangeur. Cela car la matière sébacée est réputée manger la peau. Et bien évidemment Loïc, cela ne veut pas dire que se nourrir de comédons vous garantit une bonne santé.
C'est affreusement dégueulasse ce que vous dites, docteur Marion.
On ne vous conseille bien sûr pas de le faire et a priori ça vous coupe plutôt l'appétit que ça vous le donne. Donc... Bon, mon cher Loïc, après, chacun ses goûts.
Exactement. Et d'ailleurs, non mais trêve de billevesée, hein, rappelons quand même qu'il n'y a pas de lien entre l'alimentation grasse et le fait d'avoir une peau grasse. On dit, ah ben, manger de la charcuterie, ça fait de l'acné, manger du chocolat, etc. Rappelons-le, au niveau dermato, il n'y a pas de lien avéré entre des aliments et puis le fait, effectivement, d'avoir de l'acné. L'acné, c'est vraiment un dérèglement au niveau hormonal, on le rappelle.
Oh, n'ayez pas peur, monsieur. On va soigner votre bobo.
Alors docteur Adrien, comme toutes les semaines, on n'a pas peur, mais surtout vous êtes allé fouiller ou fouiner sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine.
Exactement docteur Loïc, et aujourd'hui j'ai sélectionné pour vous la question santé de Géronimo qui vient de Guéret dans la Creuse et qui nous dit « Bonjour, je me pose une question sûrement un peu stupide et je n'ose pas la poser autour de moi. Y a-t-il la possibilité de fumer la tisane à la camomille pour s'endormir plus facilement ?»
Waouh. Merci Géronimo, en tout cas, et vous allez répondre à cette question.
Mais absolument. Alors mon cher Géronimo, si tu nous écoutes, je ne doute pas d'ailleurs que tu nous écoutes, non, hein, il n'est pas conseillé de fumer la camomille, pas conseillé du tout même de fumer tout court.
Oui, rappelons-le, hein, l'usage du tabac... En général, c'est quand même pas très bon pour la santé.
C'est top, hein, et ni pour le sommeil et l'endormissement d'ailleurs. Donc, la camomille étant une plante et se consumant rapidement, tu risques surtout de te faire très mal à la gorge et de tousser. Donc, il y a quand même mieux pour s'endormir. Et voilà quelques conseils.
Ah, les petits conseils pour bien s'endormir, docteur Adrien. Allons-y, notamment quand on est un peu stressé par les examens. Ça vaut toujours le coup.
Exactement. Alors, le premier conseil, c'est de faire du sport. Hein. Si on se dépense bien la journée, eh ben, on a plus sommeil le soir. Ça coule un peu de source. Donc, le sport, ça fait du bien au corps, au cœur, et ça procure une bonne fatigue. On peut également respirer profondément. C'est un petit peu de la sophrologie si on veut, hein, c'est-à-dire qu'on maîtrise sa respiration, on la cale sur son rythme cardiaque, et c'est une excellente technique pour trouver le sommeil. Il faut inspirer profondément par le nez sur 4 temps, bloquer ses poumons sur le même nombre de temps, souffler par la bouche sur 4 temps également, avant de rebloquer ses poumons vidés sur 4 temps. Vous recommencez l'opération une dizaine de fois, et c'est ce qu'on appelle la respiration au carré.
Alors, je viens de regarder Docteur Maman qui est en train de s'endormir, tout simplement.
Voilà, ça marche bien. Pas que la chronique de Docteur Adrien soit soporifique.
En tout cas, ça marche bien. Donc ça, c'est respirer profondément. D'autres petites techniques ?
Oui, alors on peut se détendre. Hein, donc, angoisse des examens, stress, appréhension sont le lot de la plupart des étudiants et sont les grands ennemis du sommeil.
Mais le sommeil est présent également parmi nous.
Rien à voir donc avec le soleil, ce serait plutôt l'inverse. Donc voici donc quelques remèdes simples pour vous détendre. Faites des cercles avec vos yeux derrière vos paupières fermées. Répétez l'opération une dizaine de fois, tout doucement.
Reste en même temps.
C'est le docteur Adrien, nous quitte. Alors donc vous nous disiez en tout cas se détendre. On avait être patient. Je reprends votre chronique, docteur Adrien, parce que c'est l'euphorie dans le studio aujourd'hui. Voilà, mais en fait, juste pour rappeler, être patient, le sommeil, ce sont des cycles et que généralement, hein, quand on le dit, bah, quand on rate un cycle, c'est un peu comme quand on rate un train, il faut attendre le suivant. Et les cycles, généralement, c'est quand même, on est plutôt vers 45 minutes ou 90 minutes suivant les individus. Voilà.
Exactement. Mais enfin, on rappelle quand même qu'il ne faut pas fumer la tisane, la camomille ou rien du tout d'autre.
Exactement. Et faire du sport, respirer profondément, se détendre, être patient. Puis voilà, c'est déjà pas mal.
Voilà,
si avec ça, vous ne trouvez pas le sommeil, on ne peut plus grand chose pour vous. Merci, docteur Adrien. Et allez, avant de se quitter, on va enchaîner eh bien, avec nos brèves de salle d'attente. Allez, on part. Alors là, on a du bon hein, sur les insolites de la semaine. Eh bien, son amie a confondu les gouttes pour les yeux avec quelque chose. Et alors, les photos sont terribles.
Ah, avec de l'encre de stylo à plume.
Non, ça va pas avec de l'encre de stylo à plume.
Quelque chose qui fasse des
gouttes pour les yeux.
Ah, avec du citron.
Non, pas avec du citron. Non.
Et donc ça doit pouvoir se retrouver dans un flacon qui est à peu près le même format.
Ouais,
que
grosso modo, en
yeux.
Tout cas la personne aurait utilisé effectivement en se trompant.
Colorant alimentaire.
C'est pas un colorant alimentaire.
Qu'est-ce qui peut ressembler à ça? Goutte pour le nez.
Alors je vous aide un peu du coup quand on regarde la photo de la fameuse Catherine Guedos, c'est son nom. Alors, ça se passe aux États-Unis. A priori, elle a comme un œil fermé.
Qu'est-ce qu'elle a mis ?
Elle a quand même un œil fermé.
Elle a un œil fermé sur la photo, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il peut fermer un œil et maintenir un œil fermé ?
Ah, de la colle !
Exactement !
Quel idiot !
Son ami confond les gouttes pour les yeux avec de la glu. Donc voilà, sympa. Donc elle le dit, hein, dès que j'ai eu le produit dans l'œil, j'ai senti une brûlure, j'ai fermé les yeux et j'ai crié « Appelle les urgences !» raconte-t-elle à la télévision locale.
Docteur Loïc, vous pouvez le faire en anglais ?
Non, je ne peux pas le faire en anglais. Mais en tout cas, voilà, bref, elle a été immédiatement voir un médecin qui n'était pas très fair-play, d'ailleurs, vous le lirez, qui lui a prescrit des antibiotiques, qui lui a dit que de toute façon, il ne la soignerait pas davantage parce qu'elle n'avait pas l'argent pour le payer. Et vu que c'est passé dans les médias, après il s'est un peu voilà, il revient en arrière en disant mauvaise publicité. Il a dit bah il y a pas de souci pour la soigner évidemment. En tout cas, ce qui se passe eh bien c'est qu'elle a eu un rendez-vous chez un ophtalmo et tout se passe bien pour ses yeux, on a pu lui décoller effectivement et enlever les résidus de colle. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Allez, une autre petite brève. Deux infirmières qui travaillaient dans le même service se sont aperçues d'une chose assez extraordinaire. Deux jeunes femmes, hein, âgées de 46 et 44 ans. Ouais, le hasard fait bien les choses.
Ce sont des sœurs.
Et vous êtes exactement, vous êtes
jumelles peut-être.
Et bah alors, 44 et 46 ouais, ans, je ne pense pas.
Excusez-moi, je n'ai pas écouté l'âge. Ouais. Voilà.
Elles avaient été adoptées effectivement en Corée du Sud par deux familles américaines et en fait elles étaient dans le même service, elles ont été recrutées dans le même hôpital et elles sont aperçues qu'elles se ressemblaient beaucoup. Elles ont fait un test ADN et le test ADN est formel. Eh bien, elles sont bien sœurs. C'est joli.
C'est mignon. Une belle histoire.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'elles sont embauchées dans le même service.
Et qu'elles ont choisi la même carrière. On a d'autres histoires comme ça. C'est vrai, c'est les mystères de la gémilité.
C'est beau, c'est beau. Et oui, et d'ailleurs, vous parlez en connaissance,
en connaissance de cause.
En connaissance de cause. Allez, on va se quitter sur ces belles images, docteur Adrien. Et docteur Marion, eh bien, c'est déjà la fin de Petite Consultation entre amis. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30, 18h, avec peut-être l'équipe au complet. À la réalisation cet après-midi, on l'espère. À la réalisation, il y avait eh bien notre ami Quentin à la réalisation. Vous nous retrouvez sur le site www.radiocampusparis.org. Juste après nous, eh bien Tropical Club, et vous pouvez évidemment podcaster toutes nos émissions et les émissions évidemment de Radio Campus Paris. Allez, on vous dit bisous, on se dit à la semaine prochaine. Bisous, ciao.
Allez,
ciao.
Bonne soirée.